Bonsoir. Trois thèmes pour cette tribune de la presse de ce soir, à savoir, dans une déclaration faite le week-end dernier, l'intersyndicale des magistrats dénonce la décision du gouvernement visant à modifier la loi portant statut de magistrat. Ensuite, province orientale, situation sécuritaire préoccupante dans certains territoires du bas Ouélé depuis le début du mois de mars suite à la présence des rebelles de la LRA. Enfin, signature la semaine dernière à Kinshasa de passe des doublements des recettes entre le ministre des Finances et les régies financières. Trois confrères journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Benoît Cambéré, il est rédacteur en chef du journal Écho des Grands Lacs. C'est un journal qui paraît à Kinshasa et distribué en République démocratique du Congo et dans les pays limitrophes de la RDC. Diana Bikoupa, il est directeur des rédactions au quotidien L'Avenir, c'est un journal qui paraît à Kinshasa. Et Mathieu Mpoukoudi, il est éditeur de l'hebdomadaire L'Embouchure, c'est un journal qui paraît à Matadi, au Bas-Congo. Les magistrats dénoncent la décision du gouvernement, situation sécuritaire préoccupante dans les bas Ouélé, ainsi que la signature d'impact des doublements des recettes. Tels sont les thèmes retenus pour le débat de ce soir. Comment la presse chinoise a analysé les thèmes retenus? On va le voir avec cette revue de presse que Samuel Kassak nous propose.
Bonsoir. Parmi les sujets abordés cette semaine par la presse parisienne à Kinshasa, figure la décision de l'intersyndicale des magistrats dénonçant la décision du gouvernement de modifier la loi portant statut des magistrats. Selon la tempête des tropiques, cette décision du ministre de la Justice vise à lutter contre la corruption et l'impunité par la réforme de la magistrature. Autre sujet abordé cette semaine, c'est la signature dernièrement à Kinshasa des pactes de doublement des recettes entre le ministre des Finances et les régies financières. À ce sujet, le potentiel note un sévère réquisitoire du ministre des Finances et de la Fédération des entreprises du Congo contre tout dérapage dans la réalisation du pacte de doublement des recettes signé entre le gouvernement et les régies financières. Pour doubler les recettes, Mouzito intègre les entreprises publiques transformées, titre L'Avenir. Terminons cette revue de la presse en province orientale où la situation sécuritaire est préoccupante dans certains territoires du bas Ouélé depuis le début du mois de mars suite à la présence des rebelles de la LRA. À ce sujet, Ouro annonce des nouvelles incursions de la LRA à Dongo. Selon ce journal, ces rebelles volent et pillent tout sur leur passage. Pire encore, des civils sont pris en otage par ces hommes en armes. Pour contre ces rebelles de la LRA, les FRDC et les forces de la mission des Nations Unies au Congo envisagent de lancer une opération militaire spéciale conjointe, conclut l'Observateur.
Merci Samuel Kassak. Un petit commentaire par rapport à cette revue presse que nous venons d'écouter. Benoît Cambéré, vous êtes rédacteur en chef du journal Écho des Grands Lacs, c'est un journal qui paraît à Kinshasa et distribué en République démocratique du Congo et dans les pays limitrophes de la RDC. Et un petit commentaire par rapport au travail de la presse écrite chinoise.
Bon, bah écoutez, les sujets ont été en gros, n'est-ce pas, balayés. Mais pour la province orientale, je pense qu'on aurait pu aussi parler de la tourmente qu'il y a également à l'Assemblée provinciale de la province orientale, en dehors bien sûr de la situation de la LRA. Et peut-être des suites de la tourmente également qu'il y a à l'Assemblée provinciale et au gouvernement provincial du Sud Kivu, voilà.
Diana Bikoupa, vous êtes directeur des rédactions au quotidien L'Avenir, c'est un journal qui paraît à Kinshasa, et votre commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter?
Bon, en fait, la revue de la presse que nous venons d'écouter n'est pas exhaustive, mais vous savez, le journaliste ne travaille qu'avec ce qu'il a entre les mains et de quoi se mettre sous la plume, mais c'est suffisamment représentatif en ce qui concerne les grands sujets, parce que le sujet qui a dominé l'actualité, effectivement, c'est le doublement des recettes, il y a eu aussi, et ça n'intéresse pas ce qui se fait chaque jour, par exemple, je vois au Sénat la loi sur la TVA, et ça semble ne pas intéresser la presse qui cherche plutôt les accros politiques, mais sinon c'est suffisamment représentatif.
Mathieu Poukoudi, vous êtes éditeur de l'hebdomadaire L'Embouchure, c'est un journal qui paraît à Matadi, au Bas-Congo. Et quelle est l'actualité qui a dominé la province du Bas-Congo cette semaine?
Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir apporter ma contribution. Je dirais que pour la province du Bas-Congo, l'actualité reste focalisée autour du point de presse qu'avait animé dernièrement le gouverneur de province, qui a pratiquement balayé tous les aspects entrés à la vie de la province, notamment par rapport à son programme d'action. Ce sont des préfets diversement commentés dans l'opinion et tout dépend de la sensibilité dans laquelle on se trouve.
Dans ce point de presse, il a fait une auto-évaluation, c'est ça?
Tout à fait.
Merci, nous passons à notre premier thème de ce soir. Dans une déclaration faite le week-end dernier, l'intersyndicale des magistrats dénonce la décision du gouvernement visant à modifier la loi portant statut des magistrats. Dans cette déclaration faite dimanche 21 mars dernier à la presse, l'intersyndicale évoque l'atteinte que le gouvernement veut porter à l'indépendance de la magistrature. Plus de détails avec Honoré Missenga.
Tout est parti de la décision du gouvernement prise lors du Conseil des ministres du 17 mars dernier de transmettre au Parlement un projet de loi modifiant la loi organique portant le statut des magistrats congolais, loi numéro 06/020 du 10 octobre 2006. Pour les magistrats congolais, ce projet cache en réalité une volonté manifeste de chercher, je cite, à monter le peuple congolais contre ses juges et en fait à porter atteinte à leur indépendance, ce qui est inadmissible, disent-ils. Les magistrats congolais s'en remettent finalement à l'arbitrage du chef de l'État, magistrat suprême, ainsi qu'au président de deux chambres du Parlement et aux élus du peuple attachés à l'indépendance de la branche judiciaire et au principe de la séparation des pouvoirs pour faire échec, je cite, à une réforme mal conçue. Mais qu'est-ce qui fâche dans la modification que le gouvernement compte apporter au statut du magistrat congolais? Les concernés l'ont relevé eux-mêmes dans leur déclaration du 21 mars. Ils s'indignent du fait que ce projet préconise 1. L'automaticité et l'immédiateté de la suspension du magistrat avec privation de salaire, aussitôt qu'une action en justice contre lui est entreprise. 2. L'automaticité de la révocation en cas de condamnation pénale du magistrat à une peine d'emprisonnement, quelle qu'en soit la durée. Il y a là, estiment les magistrats congolais, une volonté de violer un des principes élémentaires du droit et même de la Constitution, celui de la présomption d'innocence.
Dans une conférence de presse qu'il a animée mardi dernier dans son cabinet de travail à Kinshasa, le ministre de la Justice s'est dit défenseur des magistrats et déclare que pour le gouvernement, il est question de combattre la corruption au sein de la magistrature. Pour le Zolo Bambi Lessa, il n'est pas encore question de condamner qui que ce soit. Il s'agit juste de rendre la procédure de prise à partie disciplinaire. Benoît Kambéré, comment peut-on analyser la réaction des magistrats?
Écoutez, c'est d'abord une réaction légitime des syndicats. Mais à mon sens, ils sont allés vite en besogne, parce que ce n'est qu'un projet d'abord, hein. Un projet qui doit d'abord passer par l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, discuter et éventuellement agréer, mais on n'en est pas encore là. Mais il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Ils montent déjà les boucliers, hein, pour qu'on n'en arrive pas à ce qu'ils appellent déjà la mise en pâture des magistrats vis-à-vis de l'opinion. Mais c'est vrai, on peut constater que dans la magistrature congolaise, il n'y a pas que des enfants de cœur. Il y a des brebis galeuses comme il y en a dans toutes les institutions, dans tous les corps de métier, mais n'empêche que la loi sur le statut de magistrat, qui est une loi très très récente, qui date de 2006, que le gouvernement propose déjà des changements maintenant, on peut se poser des questions. Pourquoi maintenant est-ce qu'on a déjà connu des dérapages pour qu'on en arrive déjà à proposer des changements dans cette loi? On peut se poser des questions. Mais la loi n'est pas encore adoptée, n'est-ce pas? Elle doit encore passer par le Parlement, elle doit encore passer par l'Assemblée nationale et le Sénat. Attendons voir. Peut-être qu'avec le lobbying qu'ils font déjà maintenant, peut-être que cette loi, peut-être proposition de modification de cette loi peut être récalé au niveau des députés nationaux et des sénateurs.
Diana Gikoupa, Benoît Kambéré affirme que la réaction des syndicats est légitime, mais il se pose la question de savoir pourquoi une loi qui est récente peut déjà aujourd'hui faire l'objet d'une modification. Et vous pensez qu'il y a opportunité de modifier les statuts des magistrats maintenant?
Ben, il y a tout à fait opportunité et la situation, je pense, dans toutes les institutions de la République est beaucoup plus préoccupante dans la magistrature que partout ailleurs. Vous savez, la magistrature, on a toujours dit, c'est l'un des trois pouvoirs dans une démocratie. et chaque pouvoir, et cette séparation de pouvoir n'est valable que lorsque cette séparation est bâtie sur des contrepoids. On sait aujourd'hui que le gouvernement a comme contrepoids le Parlement, donc le Parlement contrôle le gouvernement. Et que même la magistrature peut sanctionner le président de la République en le destituant, donc c'est un contrepoids. Et que les députés eux-mêmes ont comme contrepoids le peuple qui, à la fin de la législature, peut les sanctionner. Mais quel est le contrepoids contre la magistrature? Il n'y en a pas. Ces gens-là, ils sont pratiquement, ils n'ont que Dieu derrière lui.
Et la loi quand même.
Mais c'est ça justement. C'est ça justement. Et le magistrat, on se dit, ils sont là. Leur indépendance est par rapport au dire droit. Or, on constate dans notre pays, on a vu, tout le monde se plaint, que le droit n'est plus dit. C'est lui qui, le plus petit qui n'a pas d'argent, s'il est en son droit, il a raison, et il a tort. Donc, la justice est faite à la tête du pays. Enfin, c'est tout le monde qui s'en plaint. Et pourquoi, donc, justement, les magistrats sont devenus de maîtres sur terre, et qui n'ont décidé que Dieu? C'est parce qu'il y a impunité. Et lorsque le gouvernement pense qu'il faut maintenant que dans la loi, parce qu'il ne s'agit pas que le gouvernement va les sanctionner, mais que la loi qui finalement devra aboutir à la Cour suprême de justice, parce qu'il n'y a pas une loi qui ne passe pas par la Cour suprême de justice qui est dans la magistrature. Et on devra donc prévoir des mécanismes et des sanctions afin que les magistrats sachent qu'ils ont comme contrepoids la loi et qu'ils peuvent être sanctionnés.
Mais la prise à partie a toujours existé, c'est l'un des mécanismes pour sanctionner les magistrats.
Mais tout à fait, la prise à partie existe, mais elle n'a jamais été contraignante. Elle n'a jamais été considérée comme une procédure disciplinaire, et que maintenant on voudrait qu'elle devienne effectivement une procédure qui peut conduire à des sanctions. Voilà. Et c'est là que les magistrats protestent.
Mathieu Poukoudi, ce n'est pas la première fois que les magistrats se sentent lésés par le gouvernement. N'ont-ils pas raison de dénoncer cette démarche qui est menée par le gouvernement à l'endroit du Parlement?
Bon, je dirais que mon intervention va s'appesantir sur deux aspects. D'abord, en tant que syndicat, je trouve que le syndicat des magistrats a tout à fait raison. Pourquoi? Parce que l'homme a toujours peur de l'inconnu. Ils ne savent pas ce qui va arriver demain, surtout avec le terme qui sera depuis le début de l'Assemblée nationale et du Sénat. Voilà un peu ce qu'il faut que je vous dise. Les magistrats se sentent un peu inquiets. Mais en fait, moi, je suis tout à fait d'avis avec Diana qui dit que réellement, il y a le principe qui dit que le pouvoir arrête le pouvoir. Il ne faut pas que les magistrats se sentent au-dessus de tout le monde qu'ils ont et devant Dieu. Vous comprenez? Donc, à un certain moment, si on peut renforcer la loi de manière à ce que tout citoyen soit en dessous de la loi, ce serait une très bonne chose pour qu'il y ait un équilibre. Il ne doit pas être considéré comme de super-homme alors que dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont susceptibles de certaines faiblesses, notamment la corruption, la confusion, et même des erreurs judiciaires. Donc à ce niveau-là, il faut qu'il y ait une loi qui puisse mettre tout le monde au même pied d'égalité de manière à répondre de ses actes devant la société. Donc l'inquiétude de syndicats de magistrats n'est pas fondée dans la mesure où il sera pris en compte au moment de l'élaboration de ce texte. Donc ça ne pose pas de problème pour moi.
Comment comprenez-vous certaines dispositions contenues dans ces projets de loi avec cette volonté du gouvernement qui voudrait qu'on puisse suspendre automatiquement et immédiatement les salaires des magistrats aussitôt qu'une action en justice est entreprise?
Non, en tout cas ça c'est arbitraire parce qu'en fait le magistrat qui est resté en justice jouit encore avant sa condamnation et avant que le jugement ait acquis la force de la chose jugée. De la présomption d'innocence. Voilà, au moins, c'est une mesure qui pourrait une discussion et qui est tout à fait arbitraire à l'endroit du magistrat.
Oui, devant Caméré, les magistrats pensent qu'avec ce projet de loi, le gouvernement exprime la volonté de remettre en cause le principe de la présomption d'innocence. Vous êtes de cet avis?
Oui, parce qu'il faudrait sincèrement attendre, parce que déjà, quand quelqu'un est cité en justice et que déjà on prend des mesures, non. Tout homme est présumé innocent avant que une décision judiciaire ne tombe. Alors, on en est valu et je pense que les députés ne vont pas laisser passer la chose de cette façon. Mais si, après, il est condamné, ça, je suis tout à fait d'accord
que la loi s'applique à ce magistrat. Mais avant que la décision, une des décisions judiciaires ne tombe, et cela, ce n'est pas seulement au magistrat, c'est pour tout le monde. Tout homme devrait d'abord bénéficier de la présomption d'innocence avant qu'une décision judiciaire ne tombe. Alors, que le gouvernement, bon, on dirait que c'est de bonne guerre, hein, les trois pouvoirs, chacun veut tirer un peu de son côté, mais je ne pense pas qu'avec le lobbying qu'ils ont commencé, avec déjà la levée des boucliers qu'ils ont commencé, les députés ne laisseront pas passer cette entorse pour que les choses se passent normalement. Il ne faut pas que le pouvoir politique profite de sa position pour essayer de brimer le pouvoir judiciaire.
Direct coupable, faut-il incomber tous les problèmes que connaît la RDC au seul magistrat?
Non, tout à fait, mais quand même, il faut savoir que toute démocratie repose sur la justice. Sans justice, il n'y a ni développement, ni démocratie. Et c'est tout à fait normal que qu'on estime que la justice soit le maillon qu'il faut entretenir. Les magistrats ne doivent pas seulement demander des moyens, de bonnes conditions de travail, et ne pas savoir qu'il faut aussi toutes les préoccupations, c'est-à-dire des lois, pour que ces magistrats puissent effectivement rendre justice. Les moyens et les bonnes conditions ne seront là que parce que les magistrats nous rendent justice, mais aujourd'hui avec une justice pratiquement au service de ceux qui la rendent. Mais c'est un drame aujourd'hui, vous allez dans le parquet, il n'y a pas de justice pour les justiciables. La justice, c'est un peu une façon pour celui qui a comme rôle de rendre justice de se servir. J'ai été dans le bureau d'un procureur, je ne cite pas les noms. Encore après, on vient lui donner le dossier, il regarde, bon, ben, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Tu vois, il cherche les dossiers justes. Mais est-ce qu'il n'avait pas de petits peuples à qui on a arraché la maison? Mais c'est pas normal.
Est-ce que c'est pas le gouvernement qui conditionne ces magistrats lorsqu'ils n'arrivent pas à leur donner les moyens pour leur permettre de nouer les deux bouts du mois?
Je pense que les magistrats doivent commencer par démontrer de quoi et à quoi ils servent effectivement. Mais tel que la justice a fonctionné jusqu'à là, on ne sent pas leur importance à tel point que même le peuple, si vous faites un référendum, vous dites, on voudrait donner sur les avocats, dire non, mais ils servent à quoi? Ce sont des gens qui sont là pour brimer. Et pourtant, les magistrats ne sont pas là seulement pour brimer, c'est pour rendre justice. Et c'est pour aussi réhabiliter les gens qui sont dans leurs droits. Mais il faudra d'abord que les magistrats commencent par améliorer leur image et le reste leur sera donné par surcroît.
Oui, bien, Romero, vous avez un mot à ajouter.
Je me dis que ça, c'est un cercle vicieux. D'ailleurs, j'étais surpris que les magistrats ne réagissent pas devant ce que le Premier ministre a dit, que le magistrat le moins bien payé avait 1 600 $, alors que c'est faux, archi faux. Et on a vu, et moi je m'attendais à ce que les syndicats des magistrats réagissent, et ça, c'est des choses qu'on devrait en tenir compte, parce que c'est bien de demander aux magistrats de faire ceci ou de faire cela. Est-ce qu'on lui a donné les moyens de sa politique? Parce que la liste des magistrats a toujours été également que les magistrats soient à l'abri du besoin. Le magistrat étant à l'abri du besoin, il pourra rendre la justice comme il se peut et comme il se doit. Mais il ne faut pas que, du haut de la tribune, le Premier ministre dise, par exemple, que le magistrat le moins payé a 1 600 $. Non, on côtoie quand même le magistrat de ce pays. Attention, ce n'est pas vrai.
Oui, Mathieu Poukoudi, êtes-vous du même avis que les magistrats qui estiment que ce projet de loi vise à monter le peuple congolais contre ses juges?
Non, je crois que nous devons faire la part des choses. En fait, la justice est au service de la société, mais c'est l'homme politique qui organise la justice. Alors nous devons d'ailleurs nous dire aujourd'hui, tel que la justice fonctionne, est-ce que le Premier ministre peut nous dire quel est le taux d'exécution des jugements rendus devant les cours des tribunaux en République démocratique du Congo pour qu'on dise directement que la justice fonctionne bien ou pas? Vous voyez, donc à un certain moment, il ne faut pas que les magistrats comprennent. Ils sont réellement au service des sociétés, mais aujourd'hui, tel que l'a dit Benoît, la justice est rendue à la tête du client, à la tête du justiciable. Si bien que nous avons une justice à plusieurs vitesses, si bien qu'aujourd'hui nous devons nous poser la question, est-ce que la population a-t-elle encore confiance en notre justice? Donc le gouvernement, l'exécutif, doit tout mettre en œuvre d'abord pour que les conditions de travail, les conditions de magistrats soient améliorées de manière à tendre de beaucoup de choses, notamment l'équité, la justice, la droiture. Vous voyez, mais quand on dit qu'on voudrait décider dans ce sens-là pour monter la population, nous savons l'agissement des Congolais. Mais pour le Congolais, ah, Dieu connaît, nous sommes tous entre les mains de Dieu et la rétribution, c'est Dieu. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas qu'on prenne la population comme un marchepied. Mais ce sont des intérêts politiques en présence, il faut qu'ils s'assument, il faut également que le gouvernement s'assume, notamment l'exécutif.
Merci, nous passons à notre deuxième thème ce soir. Province orientale, situation sécuritaire préoccupante dans certains territoires du Bas-Ouélé depuis le début du mois de mars, suite à la présence des rebelles de la LRA. Les territoires de Poco, Ango et Bondo dans le district du Bas-Ouélé connaissent depuis début mars une insécurité croissante, ceci suite à la présence des rebelles de la LRA et des Mbororo qui progressent à l'intérieur de ces entités. Conséquence, les deux tiers des centres de santé et plusieurs écoles primaires et secondaires dans les territoires d'Ango, par exemple, ne fonctionne plus. Le commissaire des districts du Bas-Ouélé justifie cette recrudescence de sécurité par la faible présence des éléments FRDC dans cette région. Le détail avec Anselme Massois.
Cette inquiétude que la société civile locale attribue aux rebelles ougandais de la LRA est intervenue vers 22h locale dans le quartier Bamokandi. Les rebelles qui traînaient avec eux trois otages, dont une adolescente de 13 ans, ont réussi à piller du ruban dans quelques ménages. Notre source affirme que cette dernière a profité du retrait des ordonnées des assaillants dans la brousse pour s'échapper au moment où la population commençait à crier au secours. Dans leur fuite, ils ont amené avec eux une jeune fille de 20 ans qui a également pris le large dans la confusion qui s'en est suivie. Au final, les rebelles sont partis avec deux otages. Toujours selon la même source, les habitants des Bamukandi, pris de psychose, ont passé la nuit à la belle étoile, craignant une éventuelle attaque des LRA qu'ils croient être dans les environs immédiats de leurs habitations. En réalisant la psychose qui gagne ses habitants, le commandant de la 9e région militaire dit fort que cette incursion ait été perpétrée par les rebelles de la LRA. Le général Kifoua pense plutôt que des bandits sont capables de se faire passer pour des LRA. Il dit attendre les résultats de l'enquête en cours par les FRDC pour déterminer les véritables auteurs de cet acte d'insécurité. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Diana Dikoupa, pourquoi selon vous ces phénomènes LRA persistent dans la province orientale en dépit des opérations conjointes FRDC armées ougandaises menées il y a quelques mois contre ces rebelles?
Je suis de ceux qui pensent que on n'a pas encore suffisamment fait contre ces rebelles-là. Et je pense que les opérations conjointes auraient dû continuer.
Mais on a mis dans la tête des dirigeants du Congo une certaine conscience, les Ougandais qui sont venus sur notre territoire, et ils vont partir quand c'est la même chose avec les FDLR. Les gens pensaient que la présence des soldats rwandais ou ougandais sur le sol congolais pour mettre fin à l'existence de ces rebelles-là était plus nocif que la présence de ces rebelles même. Et on a vite fait pour que ces troupes étrangères se retirent le plus vite, pour que les FARDC seuls et avec la MONUC puissent combattre ces phénomènes et l'éradiquer. Et moi, je pense que si on continue avec cette politique, on ne va pas éradiquer ce phénomène. Bien au contraire, n'importe quel bandit, comme on vient de l'entendre dans le reportage, n'importe quel autre bandit va attaquer, on dira que ce sont les LRA. Donc, il y aura, même en ce qui concerne les FDLR, quiconque attaque la nuit, on ne l'a pas vu, il pille, on dit que ce sont les FDLR. Donc, il faudra que les opérations, même si ça dure 10 ans, 20 ans, mais que l'on radique, qu'on finisse par mettre fin à ce système qu'on a partie par partie, jusque, même s'il faut aller vérifier derrière chaque arbre qu'il y a dans la jungle, et je pense que ça servirait à mettre fin à cette situation. Mais pour le moment, j'ai l'impression que, d'un côté, la communauté internationale, tout en dénonçant cette situation, ne met pas suffisamment de moyens pour que l'on puisse résoudre ce problème. La RDC, on parle de la réforme de la sécurité, on parle de la formation de l'armée, et tout cela avec toute la communauté, avec tout ce que nous avons aux États-Unis, tous ces pays de grande puissance qui déclare dans la presse aider la RDC à former son armée, on ne voit pas une armée qui, justement, peut faire face à cette situation. Je pense que pour le moment, avec ce qu'on appelle la réforme de la MONUC, il faudra aussi que les FARDC, autant qu'on demande à la MONUC de concentrer toutes ses forces à l'est où il y a des problèmes, j'aimerais aussi que les moyens et tout ce que nous avons comme forces armées soient concentrés aussi pour mettre fin à cette situation. Sinon, cette partie du territoire sera toujours
en trou noir ou qui mbororo ou qui peuvent venir et s'installer tout bonnement. Et lorsqu'on les attaque, que les pays voisins interviennent, on doit les laisser tranquilles. Je pense que on aura, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, le Congo n'aura pas retrouvé totalement sa souveraineté sur cette partie du territoire.
Benoît Gambéré, Diana pense que les opérations conjointes auraient dû se poursuivre. Vous êtes des États-Unis.
Bon, écoutez, en dehors de ce qu'il a dit, se poursuivre, c'est vrai. Hein, ça dépend de la planification qui avait été faite. Mais par contre, il y a aussi, moi, j'ai plutôt à déplorer le satisfecit, l'autosatisfaction béante des membres du gouvernement, de l'autorité gouvernementale. Qu'est-ce qu'on n'entend pas des gens qui disent le rétablissement de l'autorité de l'État est total sur le territoire de la République démocratique du Congo. On a réduit la capacité de nuisance des NRA, on les a dispersés, ils sont à débandade. Voilà la débandade. C'est la population du Bas-Ouélé et du Haut-Ouélé qui est en train de payer la débandade et la capacité de nuisance qui est, on l'a dit aussi pour le Nord Kivu et le Sud Kivu à propos de FDLR. Attention, le gouvernement n'a pas à faire de l'autosatisfaction. Chaque fois qu'on lui pose un problème, on dit un problème a été posé. Par exemple, avec la présence des troupes rwandaises, il ne faut pas qu'on balaye d'un revers de la main. Non, on a anéanti la capacité de nuisance. Voilà. C'est ça le retour de la manivelle. En fin de compte, c'est quoi? Il faudrait qu'on ait notre propre armée. Bien à la vie. C'est vrai, malheureusement, on doit chaque fois recourir aux autres. Mais si le rétablissement de l'autorité de l'État et la formation d'une armée véritablement nationale et républicaine était une préoccupation de nos dirigeants, mais ça fait 10 ans qu'on en parle. On aurait déjà eu un embryon d'une armée républicaine nationale et qui prendrait les choses en main.
Pensez-vous que ces problèmes ne préoccupent pas les dirigeants congolais?
Mais ça fait 10 ans, depuis la conférence nationale souveraine d'abord, et depuis le Sun City, on parle de la formation d'une armée républicaine et tout le Bataclan. Mais on sait que, on a vu malheureusement que pendant des années, chaque groupuscule armé, ex-groupe armé, ou même chacun garder ses éléments à lui pour les cas où. On a vu que même l'armée gouvernementale qu'on est en train de brasser avec les différents groupes Maï-Maï, on ne constitue pas une armée de cette façon-là. Il faut véritablement une volonté politique et qu'on mette les moyens au lieu de mettre les moyens à autre chose, à fêter des anniversaires qui ne valent pas la peine, qu'on mette les moyens à mettre une armée en place. Et en 10 ans, c'est faisable, en mettant un peu d'argent de côté, en menant la véritable volonté politique. Parce que des officiers formés, des militaires formés, on en a dans notre pays. Il suffit de les motiver, de les mettre en place, de les encourager. On aura une véritable armée qui faisait la fierté de la République démocratique du Congo. Il fut un moment où notre pays était respecté parce qu'on avait une force de dissuasion qui en imposait à toute la sous-région. Mais ce n'est pas le cas maintenant. On a des mbororo à gauche, des éleveurs qui font la loi chez nous. On a des groupes armés dont on a réduit la capacité de nuisance qui continuent à entrer dans notre pays comme dans du fromage ou comme dans du beurre. Les FDLR qu'on aurait réduit à néant continuent à faire des ravages chez nous. Ah non, arrêtons-nous. Mettons une véritable force armée en marche et nous serons respectés. Et tous les petits rebelles, toutes les petites armées autour de nous pourront nous respecter.
Mathieu Poukoudi, Diana Gikoupa et Benoît Gambéré ont insisté sur l'approche militaire. Pensez-vous que l'approche militaire à elle seule suffit pour mettre fin à ces phénomènes LRA?
Oui, je voudrais également spécifier qu'au-delà de l'approche militaire, il y a également l'approche diplomatique. Mais en fait, je voudrais insister sur l'approche militaire pour dire ceci, que la RDC cesse de se plaindre. Nous sommes un État souverain, ça fait plus de 40 ans. Nous sommes matures, nous devons nous assumer. C'est quand même malheureux qu'aujourd'hui, pour un gouvernement qui se fait sérieux, qui puisse toujours verser dans l'autosatisfaction, et avec le résultat, chaque jour, nous continuons à nous plaindre sur les intentions de tel groupe ou tel autre groupe. Donc aujourd'hui, l'approche militaire est plus que nécessaire. La RDC doit éviter d'incorporer dans ses rangs tous ces porteurs de munitions
ou des gens à qui on a appris à tirer un attaque ou un phare, tout ça, et puis on lui bombarde comme grade de recrutement général-major, ou comme colonel, ou sergent, ou capitaine. Oui, donc l'État doit organiser l'armée de manière à ce que nous ayons une force dissuasive à l'intérieur de notre pays. L'approche diplomatique, je dirais, elle pourrait être envisagée de manière à ce que tous ces excès, tous ces éléments armés, ils sont soit ougandais, soit rwandais, ils doivent rentrer chez eux. Et que la RDC doit avoir comme politique au niveau de la scène internationale, de manière à obtenir une pression sur tous ces États frontaliers pour qu'à leur tour, qu'ils organisent de forums politiques, de réconciliation, de manière à ce que tous ces groupes armés soient rapatriés en toute inquiétude sous l'égide du HCR. Alors moi je me pose la question, pourquoi le gouvernement congolais ne veut-il pas comprendre qu'un pays doit étendre sa souveraineté dans les limites de ses frontières et au-delà de celles-ci? Si bien que, qu'un citoyen, quand il est en difficulté, l'État a l'obligation de le secourir, quel que soit le lieu où il se trouve. L'État doit s'organiser. Ce sont des nouvelles, ce sont des dire à la communauté internationale, ah, ils vont nous aider, oh, la réforme de l'armée, organisons notre armée.
Merci Diana Dikoupa. Que pensez-vous de l'approche diplomatique que Martin Foucault propose?
En fait, je ne vois pas où elle va se situer où cette approche diplomatique. J'aimerais tout mettre un petit bémol pour dire que le gouvernement ou le Congolais qui estime, qui constate que la situation a quand même évolué dans ce sens que les FDLR ne sont plus toute une armée organisée avec des universités, avec des camps organisés en plein territoire congolais, cela n'existait plus. Et on a dû faire la nuit de Goma à Kitanga, on n'a pas rencontré des effets, on a vu faire la nuit de Goma à Rutshuru, à Kiwanja, on n'a pas entendu un seul coup de feu des FDLR. Ben, les Congolais, c'est ça le changement. Même en Espagne, un pays sécurisé, cela n'empêche qu'un jour les Basques montagnards puisse attaquer un jour à gauche, à droite. Là, c'est tout à fait une situation. Mais en ce qui concerne l'approche diplomatique, moi, je pense que c'est ce qui a été fait entre le Rwanda et la RDC, ce qui a été fait entre l'Ouganda et la RDC. Bon, mais ce que je ne comprends pas maintenant, c'est la politique des LRA et des FDLR. Ces gens-là ont comme revendication dans leur pays, prendre le pouvoir dans leur pays. Mais curieusement, aller chez vous, ils ne veulent pas y aller, ils s'installent au Congo, c'est au Congo qu'ils font l'attaque. Donc leur ennemi est devenu le peuple roi. Les LRA ne vont plus attaquer en Ouganda, les FDLR ne vont pas attaquer au Rwanda, ils attaquent les Congolais. Alors là, je me demande, je me vois pas maintenant, quelle approche diplomatique, on va faire cette diplomatie maintenant avec qui? Avec des FDLR, des bandes désorganisées, qui? Est-ce qu'ils ont des ministres des Affaires étrangères? Nous allons négocier avec des FDLR, avec leur pays d'origine, on a déjà fait la paix, on est même déjà au niveau des ambassadeurs, mais je pense que ce qui reste maintenant, c'est l'approche militaire. L'approche militaire est avec une grande envergure. Et lorsqu'on va le faire, qu'il n'y ait pas des ONG, qu'il n'y ait pas des soi-disant organisations des droits de l'homme qui disent voilà, on a tué, on a fait ceci. Mais lorsque les FDL tousent, il n'y a pas d'organisme des droits de l'homme qui dénonce les tueries des FDL. Mais quand les armées congolaises qui tuent, on dénonce.
Benoît Kambéré, quelle est votre conception par rapport à l'approche diplomatique? Est-ce que, comme le dit Diana Dikoupa, cette approche ne peut pas avoir d'impact positif dans la résolution de ces problèmes?
Elle peut avoir des impacts positifs. Il suffit que notre gouvernement prenne le bon côté des choses et ne fasse pas, des fois, la politique de l'autiche. Prenons par exemple les LRA. Vous savez que les LRA sont aujourd'hui dans des localités de notre pays qui n'ont même pas de frontière avec l'Ouganda. Ce n'est plus une menace, Diana l'a dit, ce n'est plus une menace pour l'Ouganda. C'est devenu une menace pour la RDC. Les LRA sont au-delà de la frontière soudanaise et au-delà de la frontière centrafricaine. L'Ouganda, peinard. Quand l'armée ougandaise est venue, c'était en fait pour les pousser encore plus dans la République démocratique du Congo. Et en Ouganda, on est tranquille. Les FDLR, est-ce que ça constitue encore une menace pour le Rwanda? Du tout! C'est maintenant un problème du Congo. Bon, c'est vrai, le Congo a une politique des fois chancelante. On a été un moment allié des FDLR, ça, tout le monde le sait. Mais ce n'est pas une raison pour que maintenant, ça soit un fardeau que nous portons. autant nous avons fait la paix avec le gouvernement rwandais, autant nous devons expliquer à nos ex-alliés que trop c'est trop. Et trop c'est trop, il faudrait que notre armée les fasse comprendre par la force.
Et à l'endroit de la LRA, quel est le message que le gouvernement congolais peut apporter?
Ben, écoutez, maintenant que l'Ouganda nous a aidés dans une certaine mesure, et jusque-là, les officiers ougandais et l'armée ougandaise, en grande partie, n'est pas encore partie de la République démocratique du Congo, mais l'armée ougandaise ne fait que protéger la partie de l'Ouganda, la partie frontalière de l'Ouganda, que représentait une menace, qui représentait une menace pour les LRA.
Oui, Diana Bikupa, vous allez moi ajouter.
Je voulais dire ceci, que la communauté internationale a une responsabilité là-dedans. On a estimé que, on a déclaré le LRA un groupe terroriste. C'est-à-dire que ce sont des gens qui connaissent leur sort. Et ils sont au Congo, ils ne peuvent pas rentrer en Ouganda. Mais de même, les Africains ne peuvent pas rentrer au Rwanda. Dès qu'ils rentrent, c'est la guillotine, c'est l'échafaud. Alors, ils restent au Congo. Donc, c'est parce que la diplomatie qu'on peut faire entre la communauté internationale et à convaincre le Rwanda et à convaincre l'Ouganda à organiser un dialogue, comme on a demandé aux Congolais toujours de signer des lois d'amnistie. Mais pourquoi le Rwanda, l'Ouganda ne signerait pas l'amnistie pour le LRA? Le LRA rentrerait et l'Ouganda aussi, le Rwanda aussi pour les FDLR, il rentrerait.
Merci, nous passons à notre dernier thème ce soir. Signature la semaine dernière à Kinshasa des pactes de doublement des recettes entre le ministre des Finances et les régies financières. Les régies financières ont pris l'engagement de produire les doubles de leurs assignations pour l'exercice en cours. Le premier ministre qui a présidé la signature de ces pactes a déclaré que les opérateurs économiques qui feront preuve d'un grand civisme fiscal seront épargnés des tracasseries administratives et bénéficieront du soutien politique nécessaire, tandis que les fraudeurs attitrés ainsi que leurs complices de la administration fiscale seront identifiés et catalogués. Adolfo Muzito a fixé au mois prochain la première évaluation des pactes, plus particulièrement en ce qui concerne la Direction générale des impôts sur les déclarations fiscales liées au revenu fiscal 2009. Mais quels sont les mécanismes mis en place pour concrétiser cette opération? Le ministre des Finances, Matata Mponyo, répond au micro d'Agathe Mpona.
Notre pays est aussi réputé comme un pays où les agents du fisc détournent l'argent dû à l'État. Donc il y a des opérateurs économiques qui payent, mais cet argent-là n'entre pas dans les comptes généraux du Trésor. Nous avons dit que la première chose, c'est d'être jugulé ces mécanismes de fraude, d'évasion fiscale et de détournement des fonds publics au niveau de la régie. La deuxième chose, c'est d'élargir la base fiscale. Vous savez qu'il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui opèrent dans ce pays, et qui ne sont affiliés à aucune corporation professionnelle et qui ne payent pas d'impôts. Et puis, madame, il y a des réformes. Il faut réformer le système fiscal.
Benoît Cambéré, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du journal Écho du Grand Lac. C'est un journal qui paraît à Kinshasa et distribué en République démocratique du Congo et dans le pays limitrophe de la RDC. Lorsque cette signature intervient, cela ne signifie-t-il pas que l'on reconnaît quelque part que les sources de recettes sont nombreuses dans les pays, au pays en République démocratique du Congo, mais que c'est la volonté qui manque pour le mobiliser?
Absolument, Guy. Absolument. C'est la preuve que quand on a toujours dit que le budget il est modique, que le budget est ridicule, c'est la preuve qu'on peut avoir de l'argent, on peut mobiliser davantage des ressources dans notre pays. Et on peut mobiliser en faisant quoi? Bon, c'est vrai, maintenant on en appelle au civisme fiscal, ce qui veut dire en français facile, chers amis, ne détournez moins, amenez plutôt l'argent dans la caisse de l'État. C'est ça que ça veut dire.
C'est votre interprétation.
C'est ça en français facile, si je peux ainsi m'exprimer. Si on en appelle au civisme fiscal, c'est qu'on peut arriver à quelque chose. Si on peut arriver à doubler, et si on peut boucher tous les trous, parce que le problème, il est où? Le problème, c'est tous ces détournements. Tout le monde sait comment, quel est le train de vie que mènent les achats de notre pays. Tous les agents de douane, les agents de fisc, les agents de gérage, tout le monde sait le train de vie qu'ils mènent. Mais tout le monde sait aussi combien ils gagnent. Il y a aussi que le gouvernement demande qu'on fasse le civisme fiscal. Mais le gouvernement doit aussi encourager ces gens. Parce qu'il y a un problème. Depuis l'année dernière, on a eu des grèves
ces agents qui mobilisent l'argent, tout simplement parce que le gouvernement ne leur rétrocède pas leurs droits.
D'ailleurs, c'est parmi les points qui ont été cités comme problème pour la mise en œuvre de ce mécanisme par le ministre des Finances, Matata Tampono. Il a parlé des conditions de travail des agents des régies financières. Il a notamment évoqué la rétrocession.
Tout à fait. Et il n'y a pas que ça. Même le président de la FEC a dit qu'il faudrait qu'on élargisse les bases fiscales. On sait que dans ce pays, il y a les enfants d'eux, les frères d'eux, les cousins d'eux, les tantes d'eux, qui vont à la douane, qui font entrer des véhicules, qui font entrer des marchandises, sans payer. Tout ça, il faudrait qu'on ouvre l'œil et le vent. Il ne faut pas que ce soit seulement les membres de la FEC qui, eux, soient saignés à blanc pour payer le fisc, alors que tous ces cousins d'eux, petits frères d'eux, petites sœurs d'eux, ou maman d'eux, tante d'eux, fassent venir des marchandises, ou même parrainent des marchandises des gens qui ne payent pas l'impôt. C'est tout ça qui pose problème. Et dans notre pays, il faudrait, bon, c'est vrai, appeler au civisme fiscal, mais il faut que le gouvernement fasse aussi sa part de choses. Quand quelqu'un a mobilisé de l'argent, vous êtes incapable de lui rétrocéder le 20%, le pourcentage, c'est pas 20%, le pourcentage qui nous revient, il y a quelque part un problème. On ne peut pas dire que c'est, on doit atteindre le PPTE, le point d'achèvement, comme ça on ne paye pas ce que les gens ont mobilisé. Non, il faut que le gouvernement aussi prenne ses responsabilités et paye ces gens comme il se doit. On pourra élargir la base et on pourra doubler, pourquoi pas tripler les recettes fiscales dans ce pays.
Mathieu, pour Koudi, je rappelle que vous êtes éditeur de l'hebdomadaire L'Enrichir, c'est un journal qui paraît à Matadi au Bas-Congo. Le quotidien Les Phares, dans son édition de mercredi dernier, titre sur la machette, entreprise publique, Mozito dénonce l'infinisme fiscal, les provinces se rebellent. Et à la page 4, il est dit, la plénière de mardi 23 mars 2010 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa était fort houleuse. À la base de la colère des députés provinciaux, la tendance du gouvernement central à s'approprier toutes les sources des recettes de la ville. Et comment vous analysez la réaction des députés provinciaux?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec eux, parce qu'en fait, depuis que le gouvernement Kizenga est là, nous sommes maintenant au gouvernement Mobutu, le gouvernement central a toujours tendance de confisquer les recettes, même à caractère national, qui devraient être rétrocédées en province. Vous savez, la constitution nous parle de 40% des retenues à la source, et jusqu'aujourd'hui, les provinces n'ont jamais bénéficié de cette retenue-là. Bien au contraire, le gouvernement central a mis un mécanisme violant même la constitution jusqu'à réaliser des rétrocessions saisonnières. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il se pose un problème au niveau des provinces qui ont élaboré leur programme d'action au regard de la quantité de 40%. C'est-à-dire que maintenant, quand le député provincial de la ville de Kinshasa s'insurge contre le gouvernement central, c'est tout à fait normal. C'est vrai, le gouvernement central a des problèmes, des sérieux problèmes, mais faudra-t-il qu'on respecte la Constitution, même si pas autour de 40%, mais il est retenu de 20%. Nous savons comment les provinces fonctionnent. C'est dur, c'est un peu bizarre. Si je parlais d'une rétrocession saisonnière, parce que même les gestionnaires de province, les gouverneurs de province, ne savent même pas quand est-ce que Mozito va décider de les rétrocéder la quantité que lui-même décide de son plein pouvoir. Donc vous comprenez, il se pose réellement un problème, et que le changement que nous attendons doit partir des hommes qui sont à la tête de ce pays. C'est un exemple bien d'en haut.
Merci. Diana Dikoupa, je rappelle que vous êtes directeur des rédactions au quotidien L'Avenir, c'est un journal qui paraît à Kinshasa. Ne pensez-vous pas que le Premier ministre devait échanger avec les provinces pour essayer d'harmoniser les points de vue entre le gouvernement central et ses différentes provinces au sujet de l'engagement pris par le ministre des Finances avec les régies financières?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai dit que le Premier ministre, Adolfo Mozito, a commencé le contact avec les provinces pendant qu'il était encore ministre du budget. Je me souviens à l'époque, il avait reçu le président des assemblées provinciales, il avait reçu les gouverneurs plusieurs fois. Il y a un vrai problème avec la fameuse retenue à la source de 40%. Ce n'est pas son problème. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que c'est avec ces mêmes recettes que le gouvernement paye la dette extérieure, par exemple. Et lorsque les provinces auront retenu les 40% à la source, comment les provinces vont s'organiser pour renvoyer la part qui revient au gouvernement pour payer la dette extérieure?
Merci, c'est la fin de cette émission. Alain Goy était à la technique, Samuel Kachak à la réalisation, sous la supervision de Martin Sebi-Jangwe et Guy Maté devant ses micros. Merci et bon week-end sur Radio Capi.